Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jacques, au chapitre 3. Nous lirons premièrement les versets 13 à 18. Ensuite, nous regarderons dans le chapitre 1 les versets 5 à 1. Jacques 3, 13, 18. Tout le monde a trouvé? Si oui, je lis. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Alors, mon message ce matin, je l'ai intitulé « La sagesse vraie et comment l'obtenir ?» D'abord, le contexte de l'épître. Qui est l'auteur de l'épître ? Vous me direz, c'est Jacques. Mais lequel? Le Nouveau Testament en parle de beaucoup de Jacques. Qui est l'auteur? On pense évidemment en premier à l'apôtre Jacques, mais en fait, il a été assassiné par Hérode. On le voit dans le livre des Actes, chapitre 12, des versets 1 à 2. Qui dit ceci, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, vraisemblablement, l'auteur, c'est un autre Jacques. Jacques, le frère, ou plus exactement, le demi-frère de Jésus-Christ. Pendant le ministère du Seigneur, nous savons que ses frères ne croyaient pas en lui. Ceci, on le lit en Jean 7, verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors, comment est-ce possible? Oui, Jacques a cru seulement après l'avoir vu ressuscité. Et on le voit ici, hein, 1 Corinthiens 15 au verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, dont évidemment Jacques l'apôtre. Alors, effectivement, il s'agit de Jacques, le demi-frère du Seigneur. Avec Pierre et Jean, Jacques est devenu l'un des dirigeants de l'Église de Jérusalem. Pierre, Jacques et Jean. Souvenons-nous du Concile de Jérusalem. C'était Jacques. À qui s'adressait cette épître? Nous en connaissons d'autres. Les épîtres de Paul, qui étaient très claires. On peut s'interroger. À qui s'adressait cet épître? Jacques le dit lui-même, chapitre 1, verset 1, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut !» Clairement, l'Église s'adresse aux chrétiens de la dispersion. Après, justement, le martyr d'Étienne, que nous voyons en acte 8, les versets 1 à 4, il y eut une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. Autrement dit, la lettre s'adresse aux Juifs qui étaient restés en Palestine, en tous les cas hors de Jérusalem, et de ce qu'on appelle la diaspora, donc qui se sont disséminés un peu partout suite à cette campagne de persécution. Et alors, quel est le but de cette épître? En fait, Jacques voulait encourager les Juifs à tenir ferme malgré les épreuves, notamment en insistant sur les implications pratiques de vérités chrétiennes déjà connues. Alors, vous avez le mot « pratique ». L'épître de Jacques a une vocation pratique, donner un guide pratique pour la foi chrétienne. Alors, vous avez compris pourquoi j'ai voulu situer le contexte de cette épître. Nous en examinerons plusieurs de ces vérités. Le Seigneur m'a mis à cœur donc d'explorer l'épître de Jacques. Et donc, nous verrons plusieurs de ces doctrines, de ces vérités que Jacques aborde dans l'Épître. Et ce matin, nous commencerons par aborder le thème de la sagesse. Ô combien important! C'est probablement le premier, ou en tout cas, un des mots que j'ai entendu de mes parents quand j'étais enfant. Sois sage, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau. Sois sage, c'est un mot quand même qui est entré, on va dire, dans nos vies, dès nos tendres enfances. Et d'ailleurs, pourquoi les sages femmes? Voyez-vous? Donc ça en dit long sur la portée de ce thème. Alors, en introduction, personnellement, quand j'entends ce mot, la sagesse, il y a d'autres mots connexes que je revois tout de suite. Intelligence, connaissance, n'est-ce pas? Alors, Que faut-il entendre par la connaissance, la sagesse et l'intelligence? Nous en avons un exemple très parlant dans l'Écriture. C'est évidemment l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon les a toutes reçues de Dieu. Ça, nous le voyons dans 1 Roi 4, au verset 24. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Rendez-vous compte, le roi, sagesse, intelligence, connaissance. Si Salomon a été l'homme le plus instruit de son époque, il a aussi agi en insensé devant Dieu. Et ceci, je vous invite à regarder les chapitres 10 et 11 dans 1 Roi. Mais ça, vous pouvez le regarder tranquillement chez vous. On ne va pas rentrer dans les détails. J'ai juste relevé un verset pour montrer à quel point, oui, effectivement, le roi Salomon a agi en insensé malgré tout ce que l'Éternel lui avait donné. Dieu lui est apparu deux fois. La première, c'était pour lui demander ce qu'il voulait. Il les a donc reçus, même au-delà de son espérance. Mais la seconde fois, ce n'était pas tout à fait pareil. Et nous le verrons. Exemple, dans 1 Roi 11, 1, il est dit ceci, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiennes. Tout ce que Dieu avait interdit à Israël. Et vous connaissez la suite, des autels d'Astarté, de toutes ces divinités ont été construits pour ces femmes. Quel désastre! Oui, la deuxième fois où Dieu est apparu à Salomon, on le voit en 1 Roi 11, verset 11, voici ce que dit l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » Rendez-vous compte, le schisme du royaume séparé entre Juda et capitale Jérusalem, et Israël, capitale Samarie. Le schisme du royaume. Pourtant, Salomon n'était pas seulement très instruit, mais il savait bien en quoi consistait la sagesse et l'intelligence. Nous l'avons vu, Salomon ne les ignorez pas. Dans les Proverbes, l'auteur, c'est d'ailleurs Salomon. Sagesse et intelligence sont souvent synonymes. Quelques exemples. En Proverbes 1, 2, il est dit ceci, « pour connaître la sagesse et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence. Une synonymie entre ces deux mots. De même, en Proverbe 2:3, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence. On a cette ambivalence dans l'écriture pour ce qui est de ces deux mots. Que faut-il en conclure? On peut en conclure qu'il ne suffit pas de posséder des connaissances, mais il faut aussi savoir passer à l'action. Autrement, elles ne servent à rien du tout. La connaissance est bien, mais il faut savoir passer à l'action. Jacques montre dans ce passage que la sagesse et l'intelligence consistent à mettre en pratique ce que l'on sait. L'épître de Jacques, la foi en action. Mettre en pratique ce que l'on sait. Mais comment distinguer le vrai du faux? C'est par là que commence Jacques. C'est ce que nous allons examiner. Donc, en second point, à savoir les caractères de la fausse sagesse. Connaître la fausse pour bien identifier la vraie. Et réciproquement, quels sont les caractères de la fausse sagesse? Jacques nous met en garde contre la fausse sagesse qui se reconnaît à plusieurs égards. Premièrement, ses caractères généraux. Ceci est décrit au verset 15. Il est dit de la fausse sagesse qu'elle est terrestre et donc limitée au monde du visible. Elle est terrestre. Deuxièmement, il est dit de la fausse sagesse qu'elle est charnelle. Alors, faillible, issue d'un cœur non régénéré. Troisième point, sa source, elle est diabolique. Diabolique, inspirée du malin. Après, Jacques nous parle de ce qu'elle produit, cette fausse sagesse. Verset 16. Que produit-elle? Un zèle amer, jalousie, égocentricité. Le zèle amer. Un esprit de dispute, de la rivalité qui tend à éliminer toute concurrence, rivalité, un esprit de dispute. Sixième point, c'est le corollaire d'ailleurs du précédent, du désordre, de la confusion. On ne sait plus à quoi on a affaire. Le chaos total. Et enfin, septième point, c'est tout un ensemble de choses. Dans tous les cas, toutes sortes de mauvaises actions. Bien sûr, sans prendre de risques inconsidérés. Voilà les caractères de la fausse sagesse. Il y en a sept. Évidemment, un tel comportement n'a rien d'intelligent. Loin s'en faut, c'est tout simplement de la folie aux yeux de Dieu. Maintenant, qu'en est-il des caractères de la vraie sagesse? Il est dit de la vraie sagesse que c'est celle qui vient de Dieu. Et elle se reconnaît aussi à des comportements. Les versets 17 à 18. Jacques le dit, premièrement, c'est l'un des attributs fondamentaux. Premièrement, la vraie sagesse, elle est pure. Pure comme du cristal. Pure en ce sens de son intégrité spirituelle et de sa sincérité morale. En d'autres mots, aucune marque du péché. Elle est pure. Ensuite, on verra l'autre attribut. Mais là, j'aimerais revenir sur un passage, donc dans le livre des Proverbes, chapitre 9, au verset 10, qui dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. N'est-ce pas? Pureté en premier. Commencement de la sagesse, crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Que faut-il entendre par la crainte? Il ne s'agit pas d'une crainte où on va trembler devant le Seigneur, quoique c'est nécessaire, on a vu sa puissance. Souvenons-nous sur le mont Horeb, hein, quand Dieu est passé. Dieu n'est pas notre copain au sens du monde. C'est quand même l'Éternel, c'est Dieu. La crainte de l'Éternel, au fond, c'est fuir le péché. Dieu est le péché. Craindre Dieu, c'est fuir le péché. Puis, secondairement, premièrement pur, ensuite pacifique, ce qui veut dire qui aime et qui œuvre pour la paix, cherchant à régler tout conflit avec ou entre les autres. La recherche de la paix. Elle est pacifique. Dans ce but, la sagesse, elle se montre modérée. Modérée, littéralement, ça veut dire doux. Autrement dit, courtois. Mais ça n'a rien à voir avec être mou. Le Seigneur, on l'a vu dans le temple, il n'a pas ménagé ceux qui faisaient du commerce. Pour autant, il était doux. Ça n'a aucune commune mesure avec être mou. Il faut de la courtoisie, modérée. Et d'ailleurs, en parlant du Seigneur, en Matthieu 11, au verset 29, il dit ceci, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le modèle de la douceur, de l'humilité, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et aussi, conciliante. C'est-à-dire qu'il y a le souci d'éviter ou de mettre des conflits inutiles et d'établir ou de rétablir une bonne entente. La conciliation. Puis, évidemment, la sagesse, elle se montre également pleine de miséricorde. Savoir pleine de compassion envers ceux qui souffrent. Un attribut de la sagesse vraie. Beaucoup de miséricorde. Débordante de miséricorde. Pleine de bons fruits. Autrement dit, débordant de bonnes actions envers tous. Des fruits, n'est-ce pas, cher à l'apôtre Paul ? Nous ne sommes pas sauvés par nos actes, mais par la foi. Mais par la foi, nous sommes appelés à mener des actes de la foi. Autrement dit, des fruits à la gloire de l'Éternel. Septième point, et le dernier. La vraie sagesse, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Autrement dit, il s'agit d'un désir sincère du bien d'autrui, sans rechercher en retour son propre intérêt. Très altruiste. Nous en avons besoin des exemples aujourd'hui, hein ? N'est-ce pas ? Rechercher d'abord l'intérêt du prochain. Alors, pour résumer un peu tout ça, donc j'ai essayé de faire un parallèle entre ces deux approches, ces deux connaissances, la fausse sagesse et la vraie. Nous avons vu que la fausse sagesse, elle est terrestre, charnelle, diabolique, et qu'elle recherche son propre intérêt au dépens de celui d'autrui et de Dieu. Ça va de soi. Et que la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, elle recherche d'abord la justice, en d'autres mots, ce qui est juste aux yeux de Dieu, et donc elle cherche en premier à plaire à Dieu. La vraie sagesse recherche d'abord la justice de Dieu. Et ensuite, la paix avec et entre les autres. Pourquoi ? Cette fois-ci, pour plaire aux hommes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous entendons parler de paix aujourd'hui, de la part de nos dirigeants politiques, Mais nous avons tous compris. Le prix Nobel de la paix, voilà, donc effectivement, ça a un prix. Mais cherche-t-on à plaire à Dieu ou cherche-t-on à assouvir ses propres intérêts? Là est la question. J'ai noté qu'il ne s'agit donc pas de rechercher la paix à tout prix, quitte à déplaire à Dieu, mais à se sacrifier, ou du moins à sacrifier ses intérêts pour les autres. Là est l'enjeu. Là est l'enjeu. À ce titre, Christ nous en donne l'exemple. C'est le modèle même de celui qui s'est sacrifié. Pour nous, qui n'a pas regardé ses intérêts. Et on le voit ici, par exemple, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45, qui dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » N'est-ce pas? Et je vous invite également à lire ce passage dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, où clairement, Christ n'a pas regardé son égalité à Dieu telle une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a dit, voici, je viens au Père pour faire ta volonté. N'est-ce pas? Le modèle du sacrifice de soi-même pour autrui. Christ a donné sa vie pour nous. Le modèle même de la sagesse. La sagesse vraie. Évidemment, si la sagesse n'est pas en l'homme naturel, il faut donc la rechercher. Mais comment rechercher cette sagesse? C'est ce que Jacques nous donne comme indication. Dans le chapitre 1, les versets 5 à 8, que je vous invite à lire avec moi, donc vous pouvez ouvrir vos Bibles, Jacques 1, 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Extraordinaire. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il faut donc rechercher la sagesse auprès de Dieu, puisqu'elle vient d'en haut. Et bien sûr, en faire la demande, comme nous l'avons lu. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi sommes-nous certains de l'avoir ? Verset 5, toujours. Elle lui sera donnée. Car Dieu donne. Voyez que l'Écriture est pratique dans ce sens, comme Jacques l'évoque. Dieu donne parfaitement. Dieu est la source de choses les plus excellentes. Dieu donne. Demandez. Comment demander la sagesse et être certain de l'avoir? Jacques donne ici deux conditions. Verset 6. Qu'il la demande avec foi. Important. Qu'il la demande avec foi. Dit autrement, avec une entière confiance en la promesse de Dieu. Dieu est fidèle à en faire la demande avec foi. Une confiance absolue en Dieu. Sans douter, autrement dit, sans hésiter, sans tergiverser, avec un désir sincère de la mettre en pratique. C'est en ce sens que l'épître de Jacques est une épître qui nous encourage. La foi en action. La foi sans les œuvres, elle est morte. N'est-ce pas ? Sans hésiter, sans tergiverser, avec un désir sincère de la mettre en pratique. Bien sûr, Dieu ne donne pas la sagesse à un homme qui manque de foi, qui doute et qui est indécis. Jacques utilise ici un mot. Irrésolu. Dieu n'a que faire d'un homme irrésolu. N'est-ce pas? En somme, Dieu n'accorde pas un don si précieux à quelqu'un qui n'a pas réellement l'intention de le mettre en pratique. Que cet homme ne s'imagine pas que Dieu lui donnera la sagesse. Un homme irrésolu. L'importance de la mise en pratique de ce que Dieu donne. La foi en action. Donc voyez-vous, Dieu m'a mis à cœur de vous donner ce message. Nous aurons toute une série de messages. J'avais déjà donné des messages sur l'Église. D'ailleurs, l'Assemblée me demande aussi donc, d'apporter à nouveau des messages sur l'Église. Et là, nous avons la foi en action pour nous affermir, pour avancer avec le Seigneur, pour la gloire de son royaume. Si l'on demande la sagesse avec foi, Dieu la donnera-t-il aussitôt et parfaitement ? Ceci est une question légitime. Donc, je me la pose, j'imagine vous aussi. Est-ce que si l'on demande la sagesse avec foi, on a bien vu que c'est la condition, sans douter, Dieu la donnera-t-il aussitôt et parfaitement ? On a plusieurs réponses. Dieu l'a fait aussitôt pour Salomon. Pourquoi ne le ferait-il pas pour nous? C'est Dieu qui parle. Dieu est fidèle. Dieu ne se renie pas. Il peut le faire pour nous. Et en particulier, pour nous éviter de graves péchés involontaires. Promptement. Pour nous éviter de graves péchés involontaires. Mais d'une manière générale, Dieu nous donne la sagesse progressivement. Comment ? Par la méditation de sa parole. Voilà ce à quoi Dieu nous invite. L'acquisition progressive d'une sagesse. La marche dans la sanctification. C'est un progrès. Moi, le premier, nous avons des progrès à faire avec le Seigneur, jour après jour. Et j'ai relevé ce passage dans les psaumes. Il y en a tant d'autres où effectivement le Seigneur nous exhorte à cela. Dans le psaume 119 au verset 9, il est dit ceci, Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? La sagesse, elle est premièrement pure. Comment rendrons-nous notre sentier aussi pur que le cristal ? Eh bien, en nous dirigeant chaque jour selon la parole de l'Éternel. Alors, pour être pratique, puisque c'est le sens de l'épître de Jacques. Comment devenir sage ? Méditons la parole de Dieu en lui demandant de nous aider à comprendre comment l'appliquer à notre vie. Que Dieu bénisse sa parole.